sur l'espérance chrétienne, sur l'espérance que l'Esprit Saint veut mettre dans notre cœur. Oui, on sent bien que, effectivement, dans ce cinquième mystère joyeux du nouvel avènement, de l'avenir intermédiaire de Jésus, et du second avènement, c'est ce qu'on appelle quelquefois le second avènement chez certains pères de l'Église, et il y a un rôle, on le voit bien, si on le met en parallèle avec le cinquième mystère joyeux, un rôle de Joseph, quoi. Un rôle de Saint Joseph, un rôle de Marie, quoi, qui cherche Jésus, qui vont vers Jésus. Et pour ça, ils descendent dans le temple de Jérusalem, ils descendent, et ils le trouvent là. Et, au niveau de l'avènement glorieux, vous comprenez, c'est bien sûr Jésus et Marie-Joseph qui descendent. Ils ont hâte de trouver Jésus. Ce Jésus qui est présent dans le corps mystique de l'Église, un corps mystique de l'Église qui est en pleine effervescence, qui commence enfin à parler le langage de l'Immaculée Conception et de l'Esprit Saint. C'est ce que je suis. Il emploie enfin le langage de la proclamation au docteur d'Israël. Et c'est beau ça. Et alors, une fois qu'ils sont là, alors aussitôt Jésus, on se dit, passe. C'est comme s'il y avait quelque chose qui passait de la sainteté de l'Église. La sainteté de l'Église passe de l'intelligence de sa proclamation, l'infaillibilité de sa doctrine, à la fécondité de son amour. La descente de Jérusalem vers Nazareth, sous l'ombre de Joseph, à l'ombre du papa, il était soumis à Joseph, Marie était soumise à Joseph, Jésus aussi, à Nazareth, cette descente du temple, c'est-à-dire de l'intelligence sainte, proclamée, infaillible, immaculée, à Nazareth, c'est une descente dans le cœur, une descente sur Nazareth. Le centre de gravité de la sainteté de l'Église va passer de l'infaillibilité doctrinale à l'irrésistible fécondité de son amour sur la terre. C'est ça le fruit de ce cinquième mystère joyeux, sans que l'Église perde l'infaillibilité, évidemment, de l'intelligence, mais elle va le vivre. Ce qu'elle proclame depuis 2000 ans, elle va le réaliser et l'actuer dans une communion extraordinaire de charité cachée, mais infaillible dans sa fécondité. On pourrait presque dire dans son efficacité. Ce qui va évidemment réveiller la rage de l'Antichrist. Où est-ce qu'ils sont ? Alors, il faut lire le père Armin Jean là-dessus. Extraordinaire. Tout ce que 60 à 70 pages uniquement sur ce que nous savons déjà sur l'Antichrist. Au 19e siècle. Si on ne le sait plus aujourd'hui, c'est parce qu'on a étouffé. Vous savez, on en sait beaucoup, beaucoup, beaucoup sur lui. Mais ça, je vous le lirai pas. Oh. On a encore 20 ans devant nous. C'est une manière de parler. Nous allons continuer notre méditation sur l'espérance. Je crois qu'il faut continuer sur respecter le thème du jeudi, qui est un thème qui concerne les sacrements. Il y a dans les sacrements ce développement progressif par lequel Jésus se rend présent, son incarnation, à sa mort, jusqu'à la Pentecôte, en passant par sa vie publique. Voyez. Et donc, à chaque fois, Jésus se rend présent. Et donc, c'est ça un sacrement. Jésus se prend intégralement présent, et toutes les grâces qu'il a données sur la terre de son vivant, il les donne à nous, à moi tout seul, dans le sacrement. À chaque sacrement. Voilà. Ça, c'est facile à comprendre, je crois. Et le sacrement, l'Église l'a organisé de manière à ce que je puisse être conscient de ça, recueillir ça et lui donner son fruit. C'est pour ça qu'il y a sept, toujours, grands moments dans un sacrement. Donc nous regardons surtout le sixième moment dans le sacrement, le passage de la présence réelle à la réception dans mon corps de cette présence réelle. Et comment je dois faire pour faire passer le sacrement que j'ai reçu, pour que je presse dessus, hein? C'est pour ça que j'aime bien les berlingots, vous savez, les berlingots, c'est ces berlingots où vous mettez du Nestlé concentré, là. Alors, vous faites un petit trou, et puis, vous pressez, alors, quand vous faites ça, avant de faire ça, le Nestlé est dans le berlingot, vous pressez, et le berlingot, le carton, est dans le Nestlé. Ça colle dessus. C'est ça. Vous pressez bien, et ça sort. On passe de la sacramentum et res à la res et sacramentum. C'est mieux? Alors, c'est l'absolution. C'est bien. Mais j'allais dire, on s'en fout. Si on s'arrête là, c'est plus catholique du tout. Il faut presser pour que... Sinon, c'est comme si tu bouffais ton berlingot, je veux dire. Et puis que le Nestlé reste dans le berlingot, alors après, ça sortira. Hein, sans que c'est donné son fruit dans ton corps, quoi. Il faut vraiment pas s'arrêter à l'absolution, évidemment. Sinon, j'allais dire, à la limite, bon, c'est bien, Dieu est passé, quoi, mais... Hein, Jésus est passé, il est passé par là. Hein, mais comme il dit, quand il est passé à Nazareth, il passa là, par là, sans pouvoir faire de bien, sans pouvoir guérir aucun malade, parce qu'au fond, il ne l'aimait pas. Bah, Jésus est quand même passé par là, c'est déjà quelque chose. Non, bah, c'est tout. Et, alors, comment faire? Vous voyez, c'est ça. C'est beau les sacrements, hein, c'est vrai. Hein. Alors, donc, je pense que pour l'Eucharistie, c'est. Je crois que c'est facile. Enfin. Bon. Prenons maintenant. La confession, le sacrement de pénitence. Le sacrement de pénitence, il y a les sept moments, toujours pareil, de l'incarnation jusqu'à la Pentecôte. Où est-ce que vous pouvez repérer ça? Vous pouvez repérer ça, c'est qu'il y a des étapes dans le sacrement. Ces étapes, c'est très facile. Vous avez le moment où vous réalisez que franchement, tiens, vous êtes en dehors et vous avez perdu l'état de grâce par le péché. Vous réalisez ça. C'est une première grâce qui vient du sacrement que vous allez recevoir. Parce que réaliser qu'on est en état de grâce, qu'on n'est plus en état de grâce, le réaliser vraiment, de l'intérieur, si vous voulez, ça vient du sacrement de pénitence que vous allez recevoir. De même que la transsubstantiation sur l'autel vient bien du prêtre qui est en train de s'habiller dans la sacristie, qui rentre dans l'église. De la même manière, quand je réalise que je ne suis plus en état de grâce et que j'ai besoin de la confession, que j'ai besoin de la confession, c'est une première grâce qui vient du sacrement de pénitence. Connaissance de mon péché. Il y a des gens qui disent, mais moi, c'est pas un péché pour moi. Et donc, ça veut dire qu'ils ne vivent pas encore, même des premières grâces du sacrement de pénitence. Non, pour moi, c'est pas grave, ça. Normal. Oui. Et ça, voyez, ça correspond, bien sûr, à l'incarnation. Quand Jésus vient dans une âme, il montre l'incarnation de nativité. Il met la lumière. Il illumine, il donne naissance, il met la lumière dans un monde de ténèbres. Une lumière a resplendi. Et du coup, je vois le péché. Un fils nous a été donné, un fils nous est né. Comme dit le prophète Isaïe. Un signe du pouvoir d'absoudre est sur son épaule. Alors, on appelle ça la pré-confession, qui correspond à l'enfance, la vie cachée, le baptême par Saint Jean-Baptiste. C'est l'ouverture du cœur. Il dit, il faut que je me confesse, c'est décidé. Je vais me confesser. Ce sera peut-être dans 15 jours, dans un mois, enfin, dès que je peux, je le ferai. C'est autre chose. Voyez. Constater que je suis en état de péché, que j'en ai besoin, c'est pas encore décidé. C'est décidé, je vais me... Alors, on va vers Jésus, vie cachée, puis Jean-Baptiste. Allez, c'est décidé, je vais me confesser. Dès que je peux, j'y vais. Je le dirai. Ce qui correspond à la tentation, aux tentations de Jésus dans le désert après son baptême, à sa vie publique et à la proclamation de la vérité ouvertement pendant les 3 ans avec les apôtres, c'est la séparation qu'on fait du péché lorsqu'on est auprès, là, on est là, à quelques minutes de rencontrer le prêtre et on fait l'examen de conscience. C'est-à-dire, on se proclame à soi-même en formulant quels sont les péchés que la lumière du Christ, oui, Jésus dans sa vie cachée dit rien, mais pendant ces 3 ans, il formule la révélation avec les mots justes. Ça correspond à l'examen de conscience. L'examen de conscience me permet de formuler dans la lumière du Christ les mots justes qui permettent de dire une confession juste, et complète, et loyale, et généreuse. C'est l'examen de conscience. En faisant ça, je suis déjà séparé du péché, parce qu'un péché formulé exactement est une première séparation. Et elle vient du sacrement. C'est une grâce sacramentelle. Il y a déjà une présence réelle. Après, vous avez Gethsémani. Oh là là, c'est l'angoisse, hein. et la croix. Alors, on attend. Le père dit, bah, écoutez, oui, on va vous confesser. Non seulement, mais en plus, dur de confesser, vous savez. Alors, Gethsémani, puis la croix, et puis on attend l'heure. On attend l'heure. Il y a une angoisse. C'est dur. Et pourtant, il faut rester. Et puis, c'est le moment, quoi. C'est le moment décidé par le Père. C'est pas décidé par moi, le moment. Le Père, c'est quand il peut. Quand il veut. C'est des prêtres qui disent toujours oui, immédiatement, c'est très mauvais, ce sont de mauvais prêtres. Parce qu'ils ne font pas vivre cet aspect du sacrement aux gens. C'est bien qu'il y ait des prêtres qui disent non. Demain, enfin, dans une semaine. Mais s'ils ne font pas ça, ils ne font pas vivre le sacrement, vous comprenez? Il faut qu'il y ait ce geste, il faut qu'il y ait le chemin de croix, il faut qu'il y ait Gethsémani, il faut qu'il y ait la croix. Il faut qu'il y ait cette présence de Jésus qui monte vers l'absolution universelle de toute l'Église. Et puis, et donc il est là, il vous accueille, ça y est, Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, puis je commence à formuler, ça y est, et puis voilà, je suis pris. Je suis pris et j'avoue. Oui, c'est ça. Alors, il y a les sept paroles. Les sept paroles du Christ en croix qui se réalisent et qui correspondent à l'aveu. J'ai soif. Pardonne-le, ils ne savent pas ce qu'ils font. Au bon larron, aujourd'hui, tu seras avec moi en paradis. Entre tes mains, je remets mon esprit. Voyez. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Femme, voici ton fils. Avec Marie, ça ira mieux. C'est l'aveu, vous voyez. Donc, il est très beau ce moment-là, vous voyez. C'est le moment de l'attente et de l'aveu. Gethsémani, chemin de croix et croix. Le cinquième moment qui correspond à la mort de Jésus, la blessure du cœur de Jésus, la descente aux enfers, donc les 36 heures de Jésus entre sa mort et sa résurrection, quoi, ces 36 heures si importantes. Alors c'est, je reste en silence et j'attends que le prêtre me dise quelque chose qui vient du ciel. Ce que le prêtre va me dire vient du ciel. Alors, il me fait une exhortation, il utilise mon silence pour faire une exhortation, donner un conseil, et c'est dans le silence habité de mon cœur que je reçois, venant de Dieu, ce qu'il dit. Il me donne une pénitence à faire. Tu iras dans les profondeurs des limbes, n'est-ce pas, pour prier. En disant, je vous salue Marie, voilà quoi, sur la strate de pénitence. C'est beau ça, hein, aussi. Et puis il vous donne l'absolution. Alors ça c'est vraiment. Ouais, c'est facile, hein. Blessure du cœur, c'est toujours le moment, quoi. Puis résurrection. L'absolution est donnée, vous êtes absous. Et il vous donne la bénédiction. Après l'absolution, c'est la résurrection. D'ailleurs, on le sent très bien. On sort du tombeau, du confessionnal. Et puis après, on va faire sa pénitence. Et la pénitence, eh bien, c'est la Pentecôte. Correspond à la Pentecôte, à l'Ascension, on est dans le sein du Père, et dans le sein du Père, on est le Christ tout entier, qui fait la pénitence, c'est-à-dire une prière, qui a pouvoir, en raison du pouvoir absolu du Christ dans le sacrement, qui a pouvoir de donner le pardon sacramentel du Christ à tous ceux qui ne se confessent pas sur la terre. Si le prêtre a pouvoir d'absoudre les péchés d'un seul pénitent sacramentellement, celui qui a reçu le sacrement a le pouvoir de communiquer ce pardon à tous ceux qui ne se confessent pas sur la terre et qui se confesseraient, bien sûr, s'ils savaient. Mais le musulman, il ne sait pas. Hein. Le bororo, il ne sait pas. Hein. Il ne l'a jamais dit. Mais ils ont bon cœur. Ils ont désir, ils savent qu'ils ont fait des fautes, et ils ont désir quand même de demander pardon, et ils savent quelque part. Et donc ils vivent de la préconfession en disant, mais ça je suis dans le péché, mais sûrement bon Dieu va me pardonner. J'aimerais en tout cas. Et quand, parce qu'il y en a un qui fait sa pénitence, il reçoit l'absolution catholique du sacrement. Il est absous substantiellement. Ça, c'est la fécondité catholique du sacrement, ça. Le sacrement, c'est catholique, vous comprenez? On ne sait pas le sacrement pour soi. J'espère que vous le saviez, quand même. Hein. C'est pour ça que c'est très égoïste hein, de ne pas se confesser qu'on est catholique. Hein. Donc, vous voyez, c'est sept moments, toujours pareil, à force, vous allez vous habituer. Je pourrais vous casser la tête, en disant, pour les sept sacrements. Hein. Mais c'est... Il faut sentir ces choses-là, c'est une fois qu'on le sait, bon après ça va tout seul. Bon, mais ça c'est le principe même du sacrement. Si vous voulez lire les passages, c'est toujours dans l'évangile de Saint Jean qu'on trouve les sept grands moments de ce qui se passe dans le sacrement, du point de vue mystique des trois personnes de la très sainte Trinité, comme ce que je vous ai fait tout à l'heure pour... Jean chapitre 6, c'est bien ici, c'est ce qu'on appelle, de manière pas très judicieuse, la prière sacerdotale du Christ. Chapitre 17 de l'évangile de Saint Jean, c'est pas très judicieux de dire prière sacerdotale, donc vous verrez sur vos bibles, il y a marqué prière sacerdotale, chapitre 17. C'est pas tellement la prière sacerdotale. Hein. Le titre là, c'est pas dans le texte. Hein. Saint Jean n'a jamais écrit prière sacerdotale. Hein. Ça, c'est des bons hommes qui ont inventé ça. De la Bible de Jérusalem, ils ont inventé, voilà, prière sacerdotale. Ça n'a jamais été dit, ça. Mais enfin, il y a certains qui sont incroyables, hein, qui rajoutent des titres. Il n'y en a pas. Tous les intertitres, il faut le savoir, ne font pas partie de l'Évangile. Allez, merci. Tout à fait. Et bon, il faut le savoir. Mais même, les intertitres souvent disent bien quand même ce qu'il dit après. Mais prière sacerdotale, c'est pas... Bon, je ne veux pas discuter ça. En fait, c'est la prière du Fils bien-aimé. C'est la prière du Fils bien-aimé, du Fils entièrement donné. Et ça correspond, vous savez, quand on lit ce passage chapitre 17 de l'évangile de Saint Jean, quand on connaît bien ce qui se passe dans l'Ancien Testament au moment de la fête du Yom Kippour, la fête des Lumières, le Hoshana Rabba, 7 jours du Hoshana Rabba en Israël, quand les Israélites disent vers le mois de septembre, c'est des fêtes mobiles, hein, donc c'est pas toujours des heures fixes, ils disent « Hosanna, 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 plus haut des cieux. » Hosanna, ça veut dire « Seigneur, sauve-nous, je t'en supplie. Sauve-nous, je t'en supplie. Hosha, c'est sauve-nous. Et na, c'est je t'en supplie, une particule d'insistance. Hosanna, sauve-nous, je t'en supplie, sauve-nous. » Prière sacerdotale, ainsi parla Jésus. Puis levant les yeux au ciel, il dit « Père, l'heure est venue. » Eh bien, cette prière-là, chapitre 17, verset 1 à 26, eh bien, elle a la même structure que la prière que le grand prêtre dans le temple de Jérusalem disait, au moment où il allait prononcer le nom de Dieu, et que le pardon allait être donné à tous les hommes du monde, une fois par an. Dieu avait donné, par la médiation de Moïse, l'assurance que le jour du Shanarabha, le peuple d'Israël, par la médiation des sacrifices, de sa fidélité à la Torah, obtenait le pardon du Messie, le pardon, l'absolution du Messie à tous les péchés du monde, pour tous les hommes. C'était une fonction redoutable d'Israël. Et ça a été relayé par le sacrement de pénitence. Parce que vous le savez, depuis l'an 30 de notre ère, il n'y a plus jamais eu de Hoshana Rabbah en Israël, dans le temple de Jérusalem. Et pourtant, le temple de Jérusalem n'a été détruit 40 ans plus tard. Ils auraient pu continuer à le faire. Et ils ne l'ont pas fait. À partir de la mort du Christ, les Juifs, même ceux qui n'étaient pas convertis, les grands prêtres, le Sanhédrin, n'ont plus fait le Hoshana Rabbah. C'est dans les Midrash. C'est dans les Midrash des Juifs, ça. C'est pas moi qui le dis, c'est les Juifs eux-mêmes qui le disent. Dans le texte, ils ne font pas la relation avec la mort du Christ, hein, la mort de Jésus. Mais moi, je fais la relation. Parce qu'ils ne disent pas pourquoi. Hein. Aucune raison. S'il y a une raison, en fait, c'est parce que dans les 613 préceptes, alors c'était des gens très regardants, les scribes et les pharisiens, il était écrit que lorsque le voile du temple se serait déchiré en deux, que le Saint des Saints serait mis à nu devant tous les regards, il serait impossible et interdit de renouveler le sacrifice dans le temple de Jérusalem. Donc, à la mort du Christ, vous le savez, ces colonnes immenses, très larges, dans le temple de Jérusalem, avec un tremblement de terre incroyable, s'était écarté et ça avait déchiré un rideau du temple extrêmement épais et le Saint des Saints était devenu visible, c'est dans l'évangile. Et donc ils ont respecté le précepte, ils devaient respecter le précepte de la Torah. Il y a 613 préceptes. C'était un des 613 préceptes. Et donc ils n'ont plus renouvelé le sacrifice dans le temple de Jérusalem. Vous saviez ça, hein? Et le rideau du temple s'est déchiré quand Jésus est mort en croix. Quelle coulance! C'est étonnant. Oui. Eh bien, quand il y avait le Hoshana Rabbah, le grand prêtre qui était choisi cette année-là, faisait le tour de l'hôtel, le tour des encens, je vous passe c'était mes trucs, je vous passe les détails, hein, mais et il faisait une prière pour le pardon. Et la prière du pardon, c'est exactement la même structure que cette prière-là. C'est pour ça qu'ils ont mis prière sacerdotale. D'ailleurs, la prière du pardon, en fait, la prière du Fils qui donne parfaitement tout ce qu'il y a, du Fils bien-aimé, du Père. Voilà. Et c'est pour ça que c'est dans ce passage que je préfère que nous nous orientons pour essayer de trouver dans l'écriture quelque chose de plus mystique, de plus personnel, disons, du côté du sacrement. Ça vaut ce que ça vaut, hein, mais vous pouvez vous faire vous-même la méditation biblique. Hein. Là, j'avoue que c'est moi qui l'ai fait. Hein, mais je ne suis pas infaillible, moi. Là. Ça, c'est moi qui ai fait cette chose. Mais je crois que c'est assez intelligent, ne hein, vous inquiétez pas. Parce que j'ai pas fait n'importe comment, hein. C'est pas une simple intuition. Hein. Attention, je fais ça à partir de la prière d'Israël. Voilà, quand même. Mais, tout de même, il y a des choses. Mais avant, je vais vous donner les sept noms du sacrement. Je vous ai dit, chaque sacrement, on lui donne sept noms. Alors, je vous l'avais déjà dit, sacrement de la lumière. je suis purifié par l'illumination sur mon péché. C'est pour ça que Sainte Thérèse d'Avila dit que les commençants rentrent dans le pardon, dans la voie purgative, le purgatoire, dans la voie purgative, ils sont purgés par la lumière. La voie purgative et la voie illuminative sont les premières étapes de l'oraison. Eh bien, effectivement, ce premier moment dont je vous ai parlé, connaissance de son péché dans la lumière du sacrement qui va venir, c'est un pardon, une purification, une illumination, c'est le sacrement de la lumière. Aussitôt, j'ai la contrition, et la contrition dit c'est décidé, c'est grâce à la contrition que je veux me confesser. La grâce de contrition fait que je veux me confesser, et je suis décidé, et j'y vais dès que c'est possible. Je vais, j'y vais. Et ça, c'est le sacrement de réconciliation. Dès que j'ai décidé d'y aller, je suis réconcilié. C'est pour ça. C'est pour ça que ne soyez pas choqués, parce qu'un prêtre vous dira, si vous êtes décidé à aller vous confesser, c'est décidé, vous pouvez communier. Mais attention, il ne faut pas que ce soit décidé comme ça. Je suis décidé, mais je ne sais pas si je vais y aller. Hein. Je ne sais pas quand. Hein. Si tu sais quand, le premier prêtre que tu vois, immédiatement. Ah oui, mais enfin, il est en train... Oui. Oui, absolution. Si vous avez scrupules, attendez. Mais si vous êtes décidé, et faites attention, parce que... oui, il est en train de dire la messe, j'arrive en retard à la messe, je ne peux pas, il n'y a pas de prêtre, donc... je ne peux pas aller lui dire, père, vous êtes en train de faire la consécration, stop, je veux l'absolution. Mais vous êtes décidé que dès qu'il a fini la messe, à la sacristie, vous vous précipitez, père, une absolution. Elle dit, non, j'aurais pas ce cran de faire ça. Alors, dans ce cas-là, vous ne communiez pas. Ah, si vous êtes sûr que vous ne ferez pas ça à la sacristie, donc vous ne communiez pas. Point. Non, non, on verra. Il va m'envoyer bouler. On verra ça une heure après. La messe. Je vais coincer quand il ira dans sa bagnole. Dans 2 heures. Non, non, tout de suite. Si je ne le fais pas, c'est que je ne communie pas. C'est facile, ça. Bon. Bon, donc ça, vous voyez, réconciliation. Je suis réconcilié, ça y est. Donc je peux communier. Je suis décidé d'y aller. Examen de conscience, ce qui correspond à l'examen de conscience, je suis séparé du péché. Par examen de conscience, j'ai déjà formulé. C'est décidé, c'est ça que je veux dire. Donc je me suis déjà séparé. Dès que je l'ai dit, je suis séparé, je l'ai vomi. Déjà par mon examen de conscience, il y a une séparation, c'est le sacrement du pardon. Ouais. Ça correspond d'ailleurs au... Dès que je fais un examen de conscience, ce que je veux dire ce péché-là, c'est que je suis décidé à ne pas le recommencer, quoi. Je suis décidé, donc je suis pardonné. Oui. Lorsque j'attends, que je suis dans l'angoisse et que j'avoue devant le prêtre, ah, ça c'est dur. C'est pénible, c'est le sacrement de pénitence. Ah, lorsque, le prêtre me parle qu'il a une haleine épouvantable, c'est vrai, hein, souvent, hein. C'est pour ça. Ça fait partie du sacrement, ça. Ça fait partie, oui. C'est l'exhortation du prêtre. Dans le moment, le corps de Jésus est dans l'état cadavérique, le corps qui meurt est un corps corruptible. C'est à travers ce corps corruptible, ce postillon, cette haleine, que le Verbe de Dieu parle. C'est beau, ça. Hein? Absolution. On dit bien absolution, vous voyez? Sacrement de l'absolution, sacrement du salut. C'est vrai. Et puis après, on va faire la prière finale. Vous voyez, c'est le sacrement de la joie. Le Père de l'Église qui appelle ça le sacrement de la joie. C'est nouveau, ça passe du sacrement de la lumière au sacrement de la joie. C'est d'ailleurs le seul sacrement pour lequel on donne ces termes. C'est père. Parce qu'on est tous joyeux, quoi. Regardez, c'est vrai. Mais enfin, les termes les plus courants, il faut bien le reconnaître, c'est sacrement de pénitence, sacrement de réconciliation, sacrement de confession. Hein? Sacrement du pardon, bien sûr, ça c'est courant, ça. Et puis sacrement de l'absolution et du salut. Oui. Sacrement de la lumière et de la joie, c'est marrant, c'est des choses qui se disent moins maintenant. Ça se disait beaucoup chez les premiers pères, ça. Mais c'est chouette, parce que le fait qu'il y ait plusieurs noms, il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Ils disent, mais ça fait protestant, votre truc, pourquoi est-ce que vous ne dites pas... Ça fait protestant. Ça fait catholique, oui, quand tu dis tout. Non, mais je comprends, mais... Ah oui, alors ça vaudrait la peine de rester un petit peu. Ça vaut la peine, vraiment, parce que... Mais alors, qu'est-ce qui est présent maintenant? C'est quoi la rêve? Sacramentum maîtresse. C'est quoi la présence réelle? Je vais me dire, dans l'Eucharistie, la présence réelle, vous voyez bien ce que c'est. Mais dans l'absolution, Jésus est présent réellement. Je veux bien, mais quoi exactement? C'est pas la même présence réelle, vous l'admettrez. C'est pas tout à la fois la même présence réelle. C'est pas le même sacramentum maîtresse. Alors, c'est pas le même sacrement de maîtresse. La présence du Christ. Non, ça c'est le sacrement du sacerdoce. Moi je parle du sacrement de pénitence. Le prêtre en Jésus, c'est le sacrement de l'ordre, c'est pas le sacrement de pénitence. Hein? Dans le sacrement de pénitence que je reçois, et auquel je communie, que je reçois, à signe de croix, c'est pas une présence réelle. Le signe de croix, c'est pas une présence réelle, c'est un geste liturgique que vous faites. Non, ça c'est, non, c'est ce qui accompagne la présence réelle. Non, alors donc je vous le dis un petit peu. D'abord, il y a la présence, bien sûr, de Jésus et de la blessure du cœur de Jésus. Puisque c'est de la blessure du cœur de Jésus que sort tous les sacrements, comme dit saint Augustin. Et donc lorsque vous recevez l'absolution, Jésus s'empare de vous, présence réelle, la blessure du cœur de Jésus s'empare de vous, et vous pouvez dire sous le souffle du Verbe de Dieu qui s'empare de vous, je suis la porte du ciel. Je suis la porte. La croix de Jésus est là, dans un corps de chair. C'est pour ça que Jésus a dit « Je suis la porte ». Vous voyez, la porte c'est en bois, et c'est la croix de Jésus qui a ouvert une porte dans le ciel. C'est la cœur de Jésus qui ouvre la porte du ciel. Je suis la porte. Cette présence de Jésus, Verbe de Dieu, porte du ciel, dans le corps ouvert de Jésus, qui est là. Et votre corps lui-même devient cette ouverture. Il y a la deuxième présence, qui est une présence d'amour. c'est les vertus. Ça fait naître en vous, qui êtes un cœur vivant, parce que le corps de Jésus est mort, tandis que dans le sacrement, il redevient vivant, le cœur ouvert de Jésus redevient vivant en vous, pour faire émaner le pardon de Jésus en vous, la miséricorde du Fils en vous, et l'amour du Père en vous. Dans toutes les qualités, j'allais dire, divines de l'amour glorieux du cœur de Jésus sont présents en vous. L'amour du Père dans un corps absous, dans un cœur absous, la miséricorde du Fils et le pardon, le don parfait du Saint-Esprit. Et c'est ces trois personnes qui se livrent, qui donnent totalement tout ce qu'ils sont. Pardon, miséricorde, amour, venant de Dieu. Troisième présence. Troisième présence, c'est la confession du Christ. C'est que vous êtes confessé. Ça, c'est le pain et le vin. C'est votre petite matière à vous. Vous avez confessé vos petits péchés. Parce que vos petits péchés, c'est pas grand-chose, finalement. Vous les avez donnés à Jésus. Jésus, prêtre éternel, a pris et il les a transformés. Il a transformé la confession de vos péchés. C'est, oui, dans l'Eucharistie, c'est le pain et le vin qui sont transsubstanciés en corps et sang du Christ. Eh bien ici, par l'absolution, qu'est-ce qui se passe? C'est votre confession à vous qui est transformée en confession du Christ. Le Christ confesse devant le Père, qui est. Il confesse tous les péchés du monde. Au départ, il y a votre confession, et avec l'absolution, il y a la présence réelle de Jésus qui demande pardon avec un amour infini, une miséricorde infinie et un pardon infini à Dieu le Père pour tous les péchés du monde à travers votre cœur. Au moment où vous êtes absous, présence réelle. C'est d'ailleurs pour ça que ça obtiendra le pardon à tous ceux qui ne se confessent pas. S'ils sont capables de le recevoir, bien sûr. Évidemment. C'est uniquement pour les hommes de bonne volonté, ça. Donc, votre confession est changée en présence réelle de la confession de Jésus sur la croix, qui donne pardon au Père. Confessant tous les péchés, tous les pécheurs, de tous ceux qui sont en train de pécher en ce moment, du monde entier. Et du coup, vous savez bien sûr, comme c'est le prêtre, le fait que ce soit avec le prêtre que vous demandiez pardon, c'est encore aussi le fait que vous soyez deux à demander pardon. Et qu'il y ait en plus cette présence réelle dont je viens de vous parler, et qu'on est trois, fait que c'est la confession de l'Église tout entière. Non, pas seulement la confession de Christ sur la croix, mais ça devient la confession de l'Église tout entière, du corps mystique total, du corps mystique de l'Église militante tout entière, qui demande pardon avec le Christ et en présence de Christ. Vraiment la présence de toute l'Église, présence réelle, qui demande pardon à vous, au Père, pour tous les péchés du monde. Vous avez encore une autre présence réelle, c'est évidemment, vous vous en doutez, le pardon des péchés du monde, de tous ceux qui ont désir d'être pardonnés, en le sachant ou sans le savoir. Parce qu'il y a des gens qui ont le désir d'être pardonnés en le sachant, et il y a d'autres qui ont le désir d'être pardonnés sans le savoir. C'est un désir très profond, mais il est caché à leurs propres yeux parce que ils sont trop superficiels, comment dire, je ne sais pas comment dire, ils sont trop. Ils sont trop blessés, donc ils vivent trop à un niveau Ils sont trop blessés psychologiquement, ils n'arrivent pas à percevoir leur soif spirituelle d'être pardonnés, mais leur liberté de désir du pardon spirituel est toujours là dans leur cœur. Et il y en a d'autres qui ne perçoivent pas et qui n'ont pas le désir d'être pardonnés. C'est pour ça que personne d'entre nous ne peut savoir. Mais en tout cas, tous ceux qui ont le désir d'être pardonnés ont leur péché dissous. Ça, c'est la présence, c'est en présence de la dissolution du péché chez tous les hommes de bonne volonté dans l'instant où vous êtes, où vous le faites. Et si vous faites pénitence, alors vous savez, un phénomène, je ne sais pas si vous faites pénitence, moi la pénitence c'est présence, vous avez la présence réelle de tout ça. C'est tout le sang de Jésus, pas une seule goutte ne manquant, qui est présent en vous, qui demande pardon pour tous les péchés du monde, dans tous les péchés du monde, et dans tous les lieux où le péché se commet, et donc, c'est dans cet instant où vous le faites, vous repoussez en enfer, Lucifer. Et vous en êtes parfaitement conscient. Mais lui, c'est comme un élastique, hein, il revient très vite. Mais, au moins, à force, il est fatigué. Hein. Mais un élastique, ça s'use. Hein. Voilà. Et donc, ça, c'est les présences réelles, vous voyez, sacramentum et très. Voilà. Alors, le fruit. Le fruit, alors. C'est-à-dire passer, une fois qu'on a cette présence, on est attentif à cette présence, on y communie à cette présence, bien sûr. On vit cette présence quand on la reçoit. Et puis après, on lui donne, on essaie de lui donner son fruit. On fait passer, on passe de la res, de sacramentum et res, à la res et de sacramentum. Ça, je crois, maintenant, ça commence à venir, n'est-ce pas? Passer du berlingot non percé au berlingot percé qui est vite maintenant. Voilà. Et bien dedans, vous savez qu'est-ce qu'il y a devant cette, dedans, cette présence réelle que je viens de vous expliquer, vous savez qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est le petit emballage, ça. C'est tout. C'est déjà pas mal. Non, mais le Seigneur, il nous a fait un joli cadeau comme emballage. Ce qu'il y a dedans, c'est encore mieux. L'absolution, c'est un signe. Ce pardon, c'est un signe efficace. C'est qui l'absolution en personne? C'est l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception, c'est l'absolution en personne. Elle est créée, l'Immaculée Conception. Elle a été sauvée par le Christ à l'instant où Dieu l'a fait exister. C'est l'absolution en personne. Vous savez, l'Eucharistie, c'est le Verbe incarné en personne. La présence réelle, personnelle, qu'on trouve dans sa commande pénitence pour qu'elle soit corporellement et spirituellement et vitalement, etc., en nous. C'est l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception en personne, l'Immaculée Conception, l'absolution incarnée, c'est Marie. C'est l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception, c'est Jésus qui donne son absolution au monde entier. Quand Dieu crée l'Immaculée Conception à partir de son cœur sacerdotal, qu'il est mort, le Père, le Fils, le Saint-Esprit crée à partir de là l'Immaculée Conception et donne absolution au monde entier et puis met l'Immaculée Conception dans la première cellule qui émane de l'unité sponsale de Anne et Joachim dans une conception sponsale immaculée entre deux et fait jaillir l'existence de Marie qui est l'incarnation de ce de cette présence réelle que je viens de vous dire en personne. C'est son incarnation. C'est l'incarnation de ça, c'est Marie. Marie, c'est l'Immaculée Conception. Et c'est l'Immaculée Conception, pas pour elle toute seule, évidemment. L'Immaculée Conception, c'est le pardon pour tous les chrétiens. pour ça que Marie est pour nous. L'Immaculée Conception est pour nous. Et on le reçoit réellement, personnellement, intégralement, totalement, dans le fruit du sacrement de l'absolution. L'Eucharistie permet de recevoir le Christ en sa plénitude de réalité vivante. Le sacrement de la confession me permet de recevoir Marie en personne dans sa plénitude de fécondité vivante. Ce qui est évident. Il y a des choses qu'on ne pouvait évidemment peut-être pas dire avant 1858. L'Église a proclamé le dogme de l'Immaculée Conception seulement il y a peu de temps, quoi. Et le premier à avoir développé ce dogme, c'est le père Maximilien Marie Kolbe. Donc avant Auschwitz, on ne pouvait pas en parler finalement. Et le premier pape à avoir complètement intégré la doctrine mariale de l'Immaculée Conception du Père Kolbe, c'est Jean-Paul II. Donc on ne pouvait pas en parler avant l'avènement de Jean-Paul II de tout ça. Prouve que l'Église avance quand même. Pousse par celle-là. On y va. Ça marche. Ça me permet de vivre de l'espérance. Hein? Et je crois que c'est important. Alors, elle le présente et elle confesse. Elle confesse en moi elle est Immaculée Conception. Et je peux dire avec elle, je suis l'Immaculée Conception. C'est extraordinaire pendant la pénitence. Je suis l'Immaculée Conception. C'est vrai, je suis l'Immaculée Conception. Et vous reprenez l'Apocalypse à ce moment-là, et vous voyez la mère de cristal face au trône. Vous voyez la femme face au dragon. Vous voyez la messagère face à l'heure de l'absolution de tout ce qui est mal. Vous voyez la côte face au péché. Vous voyez la Jérusalem face au monde. C'est les cinq manières dont Marie confesse ce qu'elle est. Elle est l'Immaculée Conception, l'absolution. Elle le confesse devant le trône, c'est-à-dire devant le Père. Elle confesse qu'elle est sans péché. Qu'elle est immaculée dans sa... Elle est immaculée. C'est la mère de cristal qui confesse qu'il n'y a aucune tache en elle. Et dans tous ceux en qui elle est, grâce à l'Église. C'est la mère de cristal, remplie de feu, face au trône, c'est-à-dire face au Père. Face au Père, elle confesse au Père éternel au ciel. Il n'y a plus de péché. Elle confesse face au dragon rouge ce qu'elle est. C'est la femme. C'est la femme de l'Apocalypse qui se dresse dans son adoration et dans sa contemplation. Et elle confesse au dragon qu'il est perdu. Elle confesse au diable que c'est fini pour lui. Elle est la messagère face à l'heure qu'elle confesse à tous les temps que c'est maintenant l'heure de sortir du péché définitivement. Elle confesse comme coupe du pardon. Elle est l'Immaculée Conception, donc elle a le pardon du Christ en elle. C'est la coupe, tout le sang du Christ qui pardonne, qui lave, qui immaculise tout. Et bien c'est face à tous les péchés du monde, elle confesse que tous les péchés sont pardonnés. Elle confesse ce qu'elle est, elle est le pardon de tous les péchés. C'est la coupe. C'est pour ça, dès que tu vois un péché en toi, vite, embrasse Marie. Elle confesse que c'est fini. C'est pour ça qu'elle dit à Fatima quelque chose de très sympathique. Elle dit, quiconque embrassera mon cœur immaculé, vous savez, elle se fait un petit cœur immaculé dans la statue, sera sauvé. Dès que tu sens que tu as un péché, tu confesses que tu viens embrasser le cœur immaculé. C'est un signe, hein. C'est une manière. C'est pas une absolution d'aller embrasser une statue. Attention, c'est pas un sacrement, mais c'est pour montrer ce que c'est que le passage du sacramentum et tres au reste du sacramentum du sacrement. Ah ouais, oh. Faut pas faire mystico dingo, ouais. C'est le sacrement que je parle, moi. Que Marie parle quand elle dit ça. Quand Marie fait des apparitions, elle explique l'Église. Elle explique l'Évangile. Elle explique les sacrements. Elle explique rien d'autre. Donc si tu l'interprètes autrement, exit. Or d'ici. Ah oui. Et face à Jérusalem céleste, c'est face au monde entier, c'est la Jérusalem. Elle descend et elle manifeste que le monde entier se trouve sans péché éternellement au ciel. Face au monde, elle confesse ce qu'elle est, c'est le monde entier du ciel. Elle est la Jérusalem céleste. Le monde entier se retrouve grâce à elle, sans péché au ciel. Donc elle confesse au monde que c'est fini pour lui, il n'a aucun avenir. En tant que monde tout court, il n'y a plus rien. Séparé d'elle, elle confesse qu'elle est le seul avenir du monde. Elle confesse ce qu'elle est. C'est l'Apocalypse qui montre ça. Et quand je reçois l'absolution, Marie, je peux laisser Marie proclamer face au Père, face au dragon, face à chaque péché du monde, face à l'heure dans laquelle nous trouvons, face au monde entier. Ces cinq proclamations fécondes et efficaces. Et il est très important que je fasse cela avec elle parce qu'elle ne peut pas le faire sans l'Église, sans moi, sans nous. Donc c'est très important de le savoir, de le comprendre. Alors le fruit après pour moi, quand je repars dans ma bagnole, je mets devant la télé, que je prends du chocolat, du bon chocolat colère, ou comment ça s'appelle, le suisse, bon chocolat suisse. Ah, oui. Bon, ben vous savez quels sont les fruits, une haine du péché en nous, incroyable. Si je suis passé par toutes ces étapes, hein, alors j'ai une haine du péché. Bien sûr, j'ai le pardon de tous mes péchés personnels, de toute ma vie. J'ai une guérison de toutes les sources de mes péchés. Une force contre eux. J'ai une union, une crise, une transformation vraiment de tous mes plis intérieurs. J'ai une augmentation de la grâce sanctifiante. Je deviens miséricordieux vis-à-vis de tous les pécheurs, je ne les juge plus. Et j'ai une joie indéracinable. Peut-être aurons-nous le temps demain, parce que là c'est fini, de regarder le sacerdoce royal, qui est le sixième aspect également, le passage donc du sacrement du prêtre. Le prêtre, vous le voyez, il est là. C'est le sacrement de l'ordre, il y a présence réelle de Jésus, prêtre éternel, rempli de gloire. Face au Père, suppliant, complétant toutes les prières de tous ceux qui sont sur la terre. On fait une petite prière, nous. Seigneur, Seigneur. Et lui, il prend cette prière, il la complète avec l'infini de sa perfection amoureuse devant le Père. C'est ça, Jésus, prêtre éternel. Présence réelle de Jésus, prêtre éternel. Ça, c'est normal, présence réel de Jésus, prêtre éternel. Dès que vous voyez un prêtre, présence réelle de Jésus, prêtre éternel. Dès que vous voyez un prêtre qui est en train d'être prêtre, c'est pas parce qu'il est ordonné, hein. C'est qu'il est en train d'exercer, d'actuer son sacerdoce. Alors, c'est ce que disait le curé d'Ars. Dès que le prêtre monte à l'autel, c'est Dieu qui monte à l'autel. C'est plus un prêtre. Mais si le prêtre, il est là, il rentre dans sa bagnole, il se prend son chewing-gum, il se prend sa clope et tout, c'est pas la présence réelle de Jésus, prêtre éternel. À ce moment-là, non. Pour qu'il y ait présence réelle de Jésus, prêtre éternel, il faut que le prêtre soit dans un exercice sacerdotal. Bon, par exemple, il enseigne au nom de l'Église, présence réelle de Jésus, prêtre éternel. Il donne un sacrement ou une bénédiction, présence réelle de Jésus, prêtre éternel, pouvoir d'enseignement, pouvoir, munus docendi, munus sanctificandi. Il est source d'un sacrement en ce moment. Et monus sanctificandi, il vous demande de faire quelque chose au nom du Christ. C'est votre père spirituel. Quand c'est un prêtre qui vous demande de faire quelque chose au nom du Christ, il y a Jésus, prêtre éternel, qui est présent. On doit obéir au prêtre. Évidemment, si un prêtre dit exactement le contraire de ce que dit l'autre, eh bien, on peut. C'est une miséricorde de Dieu. C'est une très grande miséricorde de Dieu, parce que si je fais ce que dit là, j'obéis à Jésus, prêtre éternel. Si je fais ce que dit l'autre, j'obéis aussi à prêtre éternel, Jésus. Donc j'ai le choix. C'est une miséricorde incroyable. Pardon ? Mais si c'est opposé, oui. Vous pouvez faire ça ou l'opposé. S'il n'y a pas de péché. Parce que si vous demande de faire un péché, ah ça vous êtes sûr que ça vient pas de Jésus, prêtre éternel. Hein? Mais si un prêtre vous dit, écoutez, mon père, je ne sais vraiment pas, que, je vais vous demander conseil, est-ce que vous, je viens vous voir parce que vraiment je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez que l'Église et Jésus me demandent, est-ce que vraiment je ne sais pas, est-ce que je dois me marier avec cette jeune fille ou... elle a 40 ans de plus que moi. Ou est-ce que je dois rentrer au séminaire? Alors, le prêtre dit, mais enfin, bon... T'as vu, elle a un gros magot quand même, elle va clamser dans 10 ans. C'est pas mauvais, je veux dire. Et puis après, tu pourras être prêtre après, tu donneras tout pour les pauvres. J'ai justement une œuvre formidable qui se fait. Non, oui, marie-toi avec elle, je crois que ça lui fera plaisir en plus, c'est charitable. Et puis tu vas voir un autre. Tu dis, mon père, voilà, je voudrais vraiment... Mais enfin, bien sûr, rentre au séminaire immédiatement. Voilà. Et ben, si tu obéis à l'un, il n'y a pas de péché. Dans aucun des cas, il n'y a pas de péché. Tu obéis à Jésus, prêtre éternel. Mais le fait que deux disent que deux, une chose opposée, c'est bon, le péché. C'est très bon, parce que c'est ce qu'on appelle une miséricorde du Seigneur. Lorsque deux autorités... ce que dit Saint Benoît, lorsque deux autorités se multiplient, lorsqu'on multiplie les autorités, c'est pour ça que dans un monastère, on met un père abbé, on met un prieur, on met un sous-prieur. Et puis on met un confesseur aussi. Extraordinaire. Il y a toujours quatre autorités sacerdotales. Hein? Hein, tu obéis? Si vraiment tu veux obéir à aucun des quatre, c'est que là, il y a un problème. Hein? C'est vrai. Munus docendi, il y a trois charges sacerdotales. Le pouvoir d'enseignement, le pouvoir de sanctification et le pouvoir de gouvernement. Donc, pouvoir d'enseignement, il enseigne la doctrine infaillible de l'Église. Quand il enseigne la doctrine de l'Église, sans rajouter ses opinions, hein, s'il raconte ses opinions, c'est plus le Jésus prêtre éternel qui est présent. S'il dit la doctrine du Saint-Père, c'est pas pareil. Vous voyez ? Même s'il se trompe un peu, s'il a l'intention vraiment de dire ce que lui dit le Saint-Père, ben, il ne sait pas parler, il bégaye, il dit, ben voilà, bon, écoutez, je vous ai fait la conférence, voilà, ça fait 2 heures que je parle, bon, c'était la première partie, personne n'a rien compris, bafouillé, le micro ne marchait pas, j'étais sourd, j'ai rien entendu, et puis c'était brouillon, c'était... Et puis, c'était une manière, puis il s'arrêtait, puis il puis il prenait, enfin, vraiment c'était. Il avait une bonne intention, un brave type. Bon, première partie, puis c'est terminé, maintenant je vais passer à la deuxième partie. Il faut quand même être en église et tout ça, bon, et puis vraiment vivre en église, quoi, ça, ouais, et puis bon, puis je crois que c'est très très important de remettre tout en, de se remettre en question, quoi, parce que bon, voilà, mais ça oui, ça. C'est la foi, quoi, c'est ça, c'est le questionnement, quoi, vraiment, quoi, et puis, le partage du vécu, vous voyez, c'est ça, quoi, c'est. Alors, ça recommence, la bibine, tout ça, mais il a l'intention de dire ce que dit l'Église, vous voyez, c'est beau, et vous avez capté ça, tiens, vas-y, c'est la fin de la première partie, maintenant c'est la deuxième partie, mais oui, prêtre éternel, première partie de ma vie, c'est foutu, c'est terminé, maintenant, deuxième partie, c'est le monde nouveau. Hein? Je reçois, vous voyez. À chaque fois qu'un prêtre enseigne avec intention d'enseigner ce que dit l'Église, nécessairement, il y a une parole efficace du Christ prêtre éternel, si je le reçois, hein? Je lui bafouille, je fouille, je zote. Il ne s'est pas lavé les dents. Il n'y a pas fait le signe de croix avant de commencer le sermon. Ah. Oui. On n'est pas sympa vis-à-vis du Jésus prêtre éternel. Hein? Bon, quand il donne un sacrement, il est en train de faire un sacrement, célébrer une messe, présider un office, il est dans le confessionnal, etc., etc. Il est. Et vous voyez, Jésus prêtre éternel, il ne faut pas lui dire, ah Francis, ça va. Non, il faut dire, mon père. Mon père. À ce moment-là. Francis, tu veux me confesser? Non. Si tu lui demandes la confession, c'est mon père. Ce n'est pas Francis qui te confessera, c'est le père. Tu y crois ou tu y crois pas? Si tu y crois pas, tu l'appelles Francis. À ce moment-là, ne va pas te confesser à ce mec-là. Prends un psychanalyste, c'est mieux. C'est mieux. C'est plus juste. Ah, mais c'est lui qui ne croit pas. Il me dit pas. Je m'en fous. Il n'y croit pas, mais moi, je crois au prêtre. Je crois à l'Église catholique. Quand je vois Jésus au Eucharistie, je dis pas. Et quand je communie la lisse du précieux sang, je dis pas, je vais enfin prendre du bon Bordeaux. Hein. Non. Maria m'a donné du Porto, mais ça avant la messe, et au moment de communier au précieux sang, je dis pas, maintenant c'est le bon moment de prendre du Porto. Non. Vous voyez, et bien, quand je vois un prêtre et que j'y vais pour me confesser, je ne dis pas, salut Francis, est-ce que tu peux me confesser? Non et non. La Marthe, elle était terrible là-dessus. Terrible. De moi-même, je ne vous aurais pas dit ce petit couplet, mais je peux vous dire que Marthe, hein, il est hors de question, disait-elle, que dans un foyer de charité, On s'adresse à un prêtre sans lui dire mon père. C'est hors de question. Hein, c'est beau ça, je trouve. Et il y a donc le pouvoir sanctification, c'est les sacrements. Et le pouvoir de gouvernement, c'est quand on va voir un prêtre pour lui demander un conseil. On peut lui demander un conseil. Faut pas trop l'embêter. Hein.